Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
En télé, radio et digital. Good morning business. Stéphane Pedrazzi.
Il est bientôt 7h, bonjour à tous, bienvenue, très bon réveil à la une de l'actualité. Une nouvelle vague de chaleur attendue cette semaine en France alors que le pays enregistre déjà une sécheresse historique. La gestion de l'eau complique davantage la situation en pleine saison touristique. Autour du bassin d'Arcachon, les professionnels du tourisme font le bilan des incendies qui ont détruit plusieurs campings et porté un sévère coup à l'activité touristique. On en parlera tout à l'heure à 7h45 avec Franck Chaume, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie pour la Gironde. Les Européens appelés à se serrer la ceinture et à restreindre dès cette semaine leur consommation de gaz. En coulisses, vous le verrez, la bataille fait rage déjà pour reconstituer les stocks pour l'hiver prochain. On en parlera avec Claire Sergent tout à l'heure dans le journal de 7h30. Et puis la Chine veut poursuivre ses exercices militaires près de Taïwan. Les tensions se sont poursuivies tout au long du week-end dans le détroit de Taïwan. Y a-t-il un risque de dérapage ? On en parlera tout à l'heure à 8h15 avec Chi Chung-Wu, directeur du bureau de représentation de Taipei en France. Il sera mon invité. Nous parlerons évidemment des tensions après les manœuvres militaires de ce week-end. Soyez les bienvenus. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Et on fait un nouveau point sur sur l'activité, l'actualité économique. Ça commence très bien cette semaine. Avec vous, Claire Sergent, bonjour.
Ah oui, en pleine activité, c'est ça.
Voilà, exactement. C'est un peu trop tôt en début de semaine, en pleine période estivale. La France semble impuissante à lutter contre la sécheresse, Claire, alors qu'elle se prépare à affronter sa quatrième vague de chaleur dans les prochains jours.
Ah oui, cette nouvelle période de canicule doit durer jusqu'au 15 août et elle inquiète alors que 57 départements sont en crise hydrique. Des restrictions concernent déjà la quasi-totalité du territoire. Pourtant, la France est en Europe l'un des pays qui reçoit le plus d'eau, mais elle est l'un des plus mauvais élèves quand il s'agit de la stocker ou encore de la retraiter, Sofiane Aklouf.
Oui, parce que 99% des eaux usées finissent dans les cours d'eau ou directement dans la mer à la sortie de nos 22 000 stations d'épuration en France. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce traitement des eaux usées est sous-exploité. Veolia compte donc s'attaquer au problème. Le premier opérateur mondial de l'eau a annoncé vouloir équiper 100 stations d'épuration en France pour la réutiliser. Il s'agit d'eau non potable. Pour l'heure, 10 stations seulement disposent d'installations pour réutiliser cette eau. C'est donc une source sous-exploitée, notamment à cause de normes très strictes, nous explique Thierry Burlot. Il est le président du Cercle français de l'eau.
C'est quand même un peu paradoxal qu'on ne puisse pas aujourd'hui réutiliser ces eaux à partir du moment, bien sûr, où elles respectent les normes sanitaires. Aujourd'hui, si je prends l'exemple de la Bretagne, on a des industries agroalimentaires qui consomment beaucoup d'eau et qui sont capables de les retraiter et de les mettre au seuil de potabilité. Et en France, on n'aurait pas le droit, à cause des autorisations sanitaires du ministère de la Santé, de les utiliser, ce qui est quand même un paradoxe. Alors qu'en Espagne, au Portugal, en Israël et dans tant de pays dans le monde, aujourd'hui, on produit des denrées alimentaires avec ces eaux recyclées. Donc la réutilisation des eaux, c'est une vraie solution qu'il va falloir apporter si on veut partager l'eau et l'économiser.
C'est vrai que dans d'autres pays, les terres sont irriguées avec de l'eau recyclée. L'Espagne tire profit de 14% de ses eaux usées, Israël 80%.
Pourtant, Sofiane, il y a des savoir-faire en France.
Oui, mais si on se retrouve cet été sans eau dans les canalisations d'une centaine de communes, c'est à cause d'un sous-investissement chronique. C'est le même principe que pour le réseau ferré, finalement. Parfois, les rails sont usés, il faut les entretenir. Et dans certaines régions, les infrastructures n'ont pas été renouvelées depuis l'après-guerre. Par résultat, le taux de fuite atteint 20%. Notre pays a donc pris beaucoup de retard. L'équipement des 100 stations d'épuration de Veolia permettra d'économiser 3 millions de mètres cubes d'eau potable par an. C'est la consommation d'une ville de 180 000 habitants, selon l'opérateur. C'est un bon premier pas, mais ça reste une goutte d'eau comparée aux plus de 5 milliards de mètres cubes d'eau consommés chaque année en France.
Merci Sofiane. Avec ces vagues de chaleur à répétition, les incendies se sont multipliés, provoquant des dégâts considérables dans les forêts et de lourdes pertes pour les exploitants.
Ah oui, la Gironde qui compte plus de 20 000 hectares de forêts est toujours en vigilance rouge incendie depuis le 1er août. Les exploitants des forêts sont sur le qui-vive. Ils doivent attendre que le feu soit officiellement éteint pour tenter de sauver au plus vite le bois incendié. Laura Cambeau.
C'est une course contre la montre pour sauver ce qui peut encore l'être. La filière bois de Gironde se tient prête à aller chercher le bois brûlé dans les incendies. Éric Constantin est le délégué régional de Nouvelle-Aquitaine de l'Office national des forêts.
À ce jour, sur les deux incendies, il est considéré à peu près 2,5 millions de mètres cubes de bois incendiés. Ça représente la moitié d'une année de récolte normale du massif des Landes de Gascogne.
Pour limiter les pertes, ce bois doit être récupéré avant d'être ravagé par les insectes et les champignons. D'une qualité inférieure, il pourra tout de même être utilisé pour faire des palettes de bois et de la pâte à papier. L'Office national des forêts espère avoir le feu vert des pompiers pour la mi-septembre.
C'est crucial de récolter ce bois tout en continuant à récolter du bois vert par rapport à la filière bois qui a besoin aussi d'être approvisionné en bois entre guillemets normal de façon à pouvoir faire face à ces carnets de commandes. La filière bois marche plutôt bien en ce moment. On a une forte demande.
Principal défi pour les exploitants des forêts, trouver la main-d'œuvre nécessaire pour répondre à cette demande. L'ONF envisage de travailler avec des entreprises installées en dehors du massif, voire à l'étranger, pour récolter le maximum de bois.
Le gouvernement maintient son objectif de ramener le déficit public en dessous des 3% d'ici la fin du quinquennat. Les dépenses publiques diminueront de 0,3% en volume l'an prochain, affirme Gabriel Attal, le ministre délégué aux comptes publics dans les Échos. Des économies qui viendront des réformes que le gouvernement veut mettre en place, les retraites et l'assurance chômage. Chaque ministère est par ailleurs engagé à rechercher des économies dans son périmètre, affirme le ministre, qui chiffre à 8 milliards d'euros d'économies la fin progressive du quoi qu'il en coûte.
Il n'y a pas de plan B pour la fusion avec TF1.
Déclaration de Thomas Raab, le patron de Bertelsmann et le propriétaire d'M6 vendredi. Alors que le compte à rebours est lancé, il reste une semaine aux deux chaînes pour répondre à l'autorité de la concurrence qui refuse leur mariage. Pour le groupe allemand, l'enjeu est avant tout européen, Mathieu Pechberti.
C'est la dernière ligne droite pour TF1 et M6. Les deux groupes doivent remettre mi-août leur argumentaire pour justifier leur fusion auprès de l'autorité de la concurrence. L'enjeu, lui, prouver que la pub télé et digitale convergent et qu'elles ne formeront bientôt plus qu'un seul marché. TF1 et M6 jugent que leurs parts de marché, aujourd'hui dominantes dans la pub télé, sont en réalité bien plus faibles en comptant celles des GAFA dans le streaming et la vidéo à la demande. Il s'appuie sur la récente offre de Netflix avec de la publicité et l'achat des droits du foot par Amazon. L'antitrust note le début de cette évolution, mais a prévenu qu'il lui faudrait des faits incontestables pour changer sa doctrine. Pour le propriétaire de M6, l'allemand Bertelsmann, l'enjeu de la fusion avec TF1 est majeur. Si elle est acceptée par l'autorité de la concurrence française, il plaidera pour appliquer cette nouvelle donne dans tous les pays européens. Le groupe essaye également de consolider le marché aux Pays-Bas avec sa filiale RTL. Son patron Thomas Rabe plaide aussi pour marier RTL en Allemagne avec ProSieben.
Plébiscité en France où 63% des foyers en ont un. Le Weber, le roi du barbecue américain, voit son succès retomber.
Ah oui, avec une inflation au plus haut depuis 40 ans, le commerce de détail souffre aux États-Unis et Weber voit ses ventes ralentir sur fond de mauvais résultats. Le titre a concédé près de 2/3 de sa valeur depuis son introduction à Wall Street il y a un an. À Sabrina Sadghi, Léo Dumas.
Après avoir flambé pendant les confinements, la demande pour les barbecues s'essouffle. Les ventes de Weber ont reculé de 7% au premier trimestre, ce qui a entraîné une perte nette de 51 millions de dollars pour le fabricant. L'entreprise basée dans l'Illinois met en cause l'inflation et un effet de change négatif. Elle se plaint aussi de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Arrivée fièrement à Wall Street il y a un an avec l'ambition de lever 800 millions de dollars, Weber a été contraint de revoir ses prétentions à la baisse puisque depuis sa capitalisation s'est effondrée de 3 milliards de dollars. Et Weber est pessimiste, un nouveau déclin des ventes est attendu au troisième trimestre. Son PDG a été poussé à la démission et face à cette crise de la demande, l'entreprise envisage aussi des licenciements et prévoit de resserrer ses stocks.
La Chine veut poursuivre ses exercices militaires près de Taïwan. Les tensions actuelles dans le détroit de Taïwan sont de la responsabilité du camp américain, affirme Pékin, qui avertit les Américains devront faire face à des conséquences graves. La Chine refuse d'ouvrir des discussions avec les États-Unis suite à la visite de Nancy Pelosi sur l'île. De son côté, la Maison-Blanche dénonce une réaction irresponsable et disproportionnée.
Y a-t-il un risque de dérapage? Quelle menace pour la production de semi-conducteurs? Nous en parlerons tout à l'heure à 8h15 avec Chi Chung-Bu, représentant de Taipei en France.
À toute attaque contre des centrales nucléaires est une chose suicidaire, a déclaré le chef de l'ONU lors d'une conférence de presse à Tokyo. Antonio Guterres demande l'arrêt des opérations militaires autour de la centrale de Zaporijjia en Ukraine. Donc Kiev et Moscou s'accusent mutuellement. Ils souhaitent que l'Agence internationale de l'énergie atomique puisse accéder à cette centrale.
Merci beaucoup Claire, on se retrouve tout à l'heure à 7h30. Il est 7h10, les marchés financiers. Morning Briefing, première édition avec Antoine Larigauderie en direct du siège d'Euronext à La Défense. Bonjour Antoine, le CAC a priori de retour vers les 6500 points aujourd'hui.
Ben oui, lentement mais sûrement. Alors, c'est pas très patent. Si on regarde sur la semaine écoulée, il se sera pas passé grand-chose, hein, honnêtement. Plus 0,37% à peine, mais quand même, on regagne 7,3% sur un mois. Il y a du mieux. Le CAC 40 renoue avec des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis début juin. Alors, ça commence à prendre forme, hein, ce rebond estival, malgré les incertitudes, bah, toujours patentes, hein, sur les marchés. Mais un rapport américain sur l'emploi bien meilleur que prévu, qui fait dire que l'atmosphère de récession autour de l'économie américaine est peut-être pas aussi forte qu'escomptée. Les résultats d'entreprises plutôt rassurant jusque-là dans l'ensemble, malgré quelques fortes déceptions, on reste quand même sur une tendance générale qui est plutôt pas mauvaise. Des prix du pétrole, alors qu'ils se sont nettement assagis, hein, sous les 100 dollars largement, on a peut-être de quoi reprendre un petit peu de risque, hein, sur les marchés, un petit peu d'appétit pour les actions. Et ce matin, les signaux sont pas mauvais, tendance un peu mitigée sur les marchés asiatiques, mais il y a plutôt de bons points. Et les premières indications donnent donc un CAC 40 qui devrait ouvrir du côté des 6500 points, un petit peu en dessous, donc plutôt une bonne tendance. Restent les volumes, hein, ça reste vraiment poussif, on est sous les 3 milliards d'euros d'actions échangées par jour, hein, encore sur le CAC 40, volume de saison, on va dire, mais ça reste homogène, avec assez peu de volatilité, donc une tendance qui tient plutôt bien.
Et en plus, Antoine, la semaine s'annonce relativement calme du côté de l'agenda.
Ouais, pas grand-chose à venir. Faudra attendre mercredi avec une grosse journée, pas mal de statistiques. Ce sera la grosse journée de la semaine avec les chiffres d'inflation pour trois grandes économies mondiales, la Chine, les États-Unis et l'Allemagne. Donc là, ça risque de bouger un petit peu, hein, notamment sur les taux et l'échange. Si on regarde bien le marché obligataire, on reste sur des lignes d'équilibre assez nettes à 0,95 de rendement pour la dette allemande 10 ans, 1,49 pour la dette française et 2,82 pour le 10 ans américain. Le tableau sera peut-être quand même largement différent mercredi en fonction de toutes ces publications attendues. Et puis un petit mot de l'euro aussi, on reste bien accroché au-dessus d'un 0,1 avec un objectif peut-être sur un 0,2 si le dollar ne bouge pas trop de ses niveaux actuels.
Merci beaucoup Antoine Larigauderie en direct du siège d'Euronext. Il est 7h12 sur BFM Business et RMC Découverte.
En télé, radio et digital. Good Morning Business.
Plus d'un ménage sur deux en France possède aujourd'hui un animal de compagnie. C'est un budget à part entière estimé à plus de 1000 euros par an et par famille, nourriture, soins vétérinaires et désormais assurance santé, puisqu'il est désormais possible de souscrire une assurance maladie pour son animal domestique. On va en parler avec Hugues Salor, PDG de Santévet. Bonjour.
Bonjour.
Spécialiste de l'assurance animale, quelle est la couverture aujourd'hui qu'on peut offrir à son animal domestique? D'abord, quel type d'animal est-ce qu'on peut assurer et quel type de soins?
Alors, nous assurons les chiens, les chats, les perroquets, les furets et même les lapins. Ce qu'on appelle les nouveaux animaux de compagnie, c'est pas le gros de notre business, mais ça représente quand même 3% de l'ensemble de nos assurés.
Ouais. C'est un marché en forte croissance. Sur la période 2019-2017, certains analystes nous disent plus de 7% de croissance annuelle moyenne. On sait que l'Amérique du Nord aujourd'hui est le plus gros marché pour l'assurance des animaux domestiques, que la région Asie-Pacifique est celle qui enregistre la plus forte croissance. Où est-ce qu'on en est en Europe?
En Europe, il faut distinguer les pays anglo-saxons et nordiques du reste de l'Europe. Grande-Bretagne, vous avez 40% des propriétaires de chiens qui sont assurés, 35 pour les propriétaires de chats. En Suède, ça monte à 80%. Dans le reste de l'Europe continentale, on est plutôt sur des moyennes aux alentours de 6-7%, comme en France.
Comment on explique un tel écart ?
Je crois que la relation à l'assurance santé animale et à la santé d'une manière générale dans les pays anglo-saxons est un petit peu différente. Dans les pays anglo-saxons, on doit financer sa propre assurance santé animale et elle est privée souvent. En France et en Allemagne, en Italie, en Espagne, le réflexe d'assurer son animal de compagnie est en train de s'installer, mais il se conjugue au tout gratuit de la santé humaine, donc c'est parfois un petit peu compliqué.
Vous l'avez dit, en France, entre 6 et 7% des propriétaires de chiens et chats ont souscrit une assurance santé. Quel est le potentiel du marché français ?
Écoutez, nous on estime qu'on devrait pouvoir monter à 15 à 20% dans les 10 ans qui viennent. On le voit bien avec l'effet Covid, le réflexe d'abord de prendre mieux soin de son animal s'est progressivement installé en France et en Europe. Et donc on pense que sur le marché français, on pourrait monter de 15 à 20% d'animaux assurés.
En tout cas, vous n'avez pas d'objectif d'atteindre les pourcentages des pays du Nord ou de la Grande-Bretagne ?
Écoutez, nous, notre objectif pour notre groupe Santévet, c'est d'avoir un peu plus d'un million de clients assurés dans les 4 ans qui viennent. Donc, je pense que ça va déjà être bien de pouvoir réussir ce beau challenge.
On va parler de vos objectifs et de vos projets de développement. D'abord, un mot sur l'inflation et la baisse de pouvoir d'achat. Est-ce que ça peut freiner la croissance du secteur ?
Alors, écoutez, non. Pas en ce qui nous concerne pour l'instant, pour une raison qui est assez simple, c'est que les Français sont attachés à leur animal de compagnie et je pense que l'idée de ne pas pouvoir financer les frais vétérinaires est assez inquiétante pour certains. Donc nous, on ne ressent pas pour le moment, d'impact de l'inflation sur nos clients.
On va parler de Santévet, je l'ai dit, leader du marché français, 250 000 contrats pour la France et la Belgique aujourd'hui. D'ici 2026, vous allez étendre votre couverture en Europe, Autriche, Italie, Pays-Bas, Portugal. Quelle est la spécificité de ces marchés ?
D'être très faiblement équipé. Ouais. Et nous sommes également présents en Belgique, comme vous l'avez dit, mais également en Espagne et en Allemagne. La situation est à peu près similaire avec la France en Allemagne. Les pays que vous évoquez sont des pays où le taux d'équipement est pour l'instant très très faible. Donc nous, notre stratégie, c'est d'aller équiper les propriétaires d'animaux de compagnie dans les pays européens où pour l'instant le marché n'est pas développé.
Au mois de février, vous avez levé 150 millions d'euros pour accélérer votre développement avec notamment la création d'une plateforme de santé digitale. C'est quoi ? C'est une sorte de Doctolib pour les animaux ?
Alors, ça fera partie des services que nous allons proposer, que nous proposons déjà. L'idée, c'est effectivement, avec une application, de pouvoir proposer aux propriétaires d'animaux de compagnie tous les services dont il a besoin, que ce soit de la prise de rendez-vous en ligne, que ce soit le financement de ses soins vétérinaires, que ce soit de la garde d'animaux de compagnie. Voilà, l'idée, c'est d'avoir le tout en un avec une application qui s'appellera Santévet, tout simplement.
Ouais, donc beaucoup plus large que Doctolib, en réalité.
Beaucoup plus large que Doctolib ou que Vetolib, puisque nous, notre marque s'appelle Vetolib.
Vous allez proposer de la téléconsultation. Comment ça va fonctionner ?
Oui, alors le marché de la téléconsultation en France est encore balbutiant. Il a été autorisé par l'ordre des vétérinaires pendant le Covid. Aujourd'hui, ça se développe, mais en consultation, je dirais, de suivi. Comme pour la médecine humaine finalement, mais on croit beaucoup dans les 5 à 6 ans qui viennent au développement de la téléconsultation qui est bien pratique quand on doit regarder ce qui se passe après, je dirais, un petit problème de peau chez un animal de compagnie. On n'a pas nécessairement besoin de venir chez le vétérinaire.
Pour votre croissance, des embauches prévues ?
Alors nous sommes d'ores et déjà à peu près 400 dans le groupe.
Lyonnais à l'origine, on le rappelle ?
Comment ?
Groupe Lyonnais,
absolument, et fier de l'être. Nous sommes à peu près 400 aujourd'hui dans le groupe avec nos différentes filiales et nous sommes en train de recruter 400 personnes dans les 4 ans qui viennent.
Merci beaucoup, Hugues Salor, d'avoir été notre invité ce matin, PDG de Santévet, donc on le rappelle, spécialiste de l'assurance animale et qui va continuer son développement sur d'autres marchés en Europe. On marque une pause, juste après ce sera Culture Geek, on va vous parler des technologies anti-moustiques et le monde qui bouge avec Benaoudin Abdedaïm, parlera du Pentagone exaspéré par les fusions-acquisitions dans le secteur de la défense. À tout de suite.
Salut Anthony.
Salut Fred.
Alors on va parler de l'ennemi juré de l'été, le moustique. Hein, ou alors il faut oublier les sprays, les lampes à UV, tout ce qu'on met sur les prises électriques. Toi, tu as déniché tout un tas de start-up qui vont nous rendre la vie quand même plus calme.
Exactement. Et notamment une start-up basée du côté d'Aix-en-Provence qui a mis au point un aspirateur à moustiques. Alors je trouve l'idée géniale. En fait, c'est une borne, tu vois, une grosse boîte noire que tu mets dans un jardin particulièrement. Et en fait, cette boîte, elle a été conçue pour attirer impitoyablement tous les moustiques dans un rayon de 60 mètres. En fait, pourquoi les moustiques nous piquent ? Un, parce qu'on respire comme des êtres humains, et deux, parce qu'on sent comme des êtres humains. C'est ça qui les attire. Et ce que fait cette borne, c'est qu'elle va reproduire notre respiration. Il y a une bonbonne de CO2 qui inspire et qui expire. Et il y a un leurre olfactif qui va reproduire notre odeur. Résultat, les moustiques sont attirés. Piégés, ça c'était Jean-Claude Van Damme, piégés dans un filet, ils peuvent plus sortir, ils peuvent plus se reproduire et tu es débarrassé. Alors pour les particuliers, c'est pas mal, ça coûte 1000 euros quand même, hein, donc c'est un petit investissement. Mais il y a beaucoup de municipalités qui commencent à s'en équiper dans le sud de la France.
Ouais, pour les crèches, les écoles.
Pour les crèches, les écoles, exactement. L'île de la Réunion, ça les intéresse beaucoup parce qu'il y a plein d'endroits. Mais oui, il y a plein d'endroits en fait où les moustiques sont porteurs de maladies, évidemment. Ils commencent à exporter en Californie et en Floride.
Et on sait déjà si ça marche, si ça existe déjà.
Bah écoute, oui, sur les zones où l'appareil est testé, les piqûres de moustiques sont divisées par 10. Donc ça fonctionne plutôt pas mal.
Plutôt pas mal. Et puis on l'a vu à l'écran à quoi ça ressemblait. Sinon, il y a toujours la bonne vieille moustiquaire. Mais alors, comme on est dans une chronique geek de l'été, elle est différente.
Elle est un peu réinventée, on va dire. C'est deux chercheurs français qui ont mis ça au point. Ça s'appelle le Mostiglas. Donc c'est une moustiquaire rigide qu'on peut poser sur une fenêtre, par exemple. Donc c'est complètement transparent, comme un panneau en plexiglas. Mm-hmm. C'est un avantage parce que les moustiquaires, d'habitude, ça a plutôt tendance à assombrir une pièce, par exemple. Et elles sont percées au laser de trous minuscules, coniques, qui sont suffisamment petits pour ne pas laisser passer les moustiques.
Mais il y a quand même de l'air.
Exactement. Et en fait, c'est tout l'intérêt. En fait, ce double effet qui se coule, c'est que tu bloques les moustiques et tu vas rafraîchir la pièce. Ce qui est plutôt pas mal en été. Ça fonctionne très très bien. Donc, à la fois, il y a une version fixe et rigide pour les vitres, les fenêtres, et une version plus souple pour les tentes, par exemple. Là encore, très intéressant pour toutes les zones où les moustiques sont dangereux. C'est vrai qu'on dit souvent que quand on parle d'animaux dangereux, on pense au requin. Le requin, ça tue 10 personnes par an. Les moustiques, c'est plus de 700 000. Hein. Donc, faut avoir ces ordres de grandeur-là. En tête, le moustique, c'est l'animal le plus dangereux du monde.
Et justement, on peut se venger aussi sur ces moustiques avec une solution laser. Alors, on va les chasser au laser, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Alors moi, j'adore. C'était présenté au CES de Las Vegas. Bon, c'est un peu le royaume du gadget. Hein, mais on a tous connu cette scène où tu te réveilles, tu entends le bzzz du moustique, tu le cherches sur le mur partout, tu le trouves pas, tu te rendors, bzzz, c'est reparti. Et là, en fait, ce laser, en fait, c'est une caméra intelligente qui va détecter la présence du moustique sur le mur et qui va, grâce à un rayon laser, le suivre impitoyablement. Alors, quand je dis rayon laser, il va pas le détruire, le désintégrer. Non, ça, la dernière partie est manuelle, donc il faut quand même s'occuper du moustique. Mais enfin, déjà, tu peux plus le rater, il est vraiment dans ton champ de vision. Ça s'appelle le bzzgo, je sais pas si je le prononce bien, bzzgo, et ça devrait sortir. Alors, c'est encore un prototype pour l'instant, mais ça devrait sortir dans les mois ou les années qui viennent.
Plutôt intelligent, on attend ça avec impatience. Merci, Anthony. À très bientôt pour une nouvelle chronique geek de l'été sur BFM.
BFM Business, les chroniques de l'été.
Le Pentagone aux États-Unis, exaspéré par les fusions-acquisitions dans le secteur de la défense, on en parle tout de suite dans Le Monde qui bouge.
Good morning business, le monde qui bouge.
Les rapprochements dans le secteur de la défense limitent en effet la concurrence et a tendance à tirer les prix vers le haut. Missiles, avions, satellites, le Pentagone aimerait voir davantage de concurrence. Benaoud Abdedaïm.
Il semble que le ministère américain de la Défense ait décidé de s'attaquer aux défauts de concurrence au sein du complexe militaire industriel des États-Unis. Trop de consolidation aura porté préjudice aussi bien aux armées du pays qu'à ses finances publiques. D'après un rapport du Bureau des acquisitions du Pentagone, publié en février, depuis la fin de la guerre froide, le nombre d'équipementiers de premier rang aura été divisé par 10. Il ne reste plus à présent que Boeing, General Dynamics, Lockheed Martin, Northrop Grumman et Raytheon. De fait, c'est un oligopole qui s'est créé. On peut lire dans ce document qu'une concurrence insuffisante peut laisser des lacunes dans la satisfaction des besoins techniques, supprimer les pressions à innover afin de dépasser les autres entreprises et entraîner des coûts plus élevés pour les contribuables américains. Parce que les acteurs dominants tirent parti de leur position de marché pour facturer davantage, je cite toujours, et élever des barrières aux nouveaux entrants. Thèse classique donc des méfaits du défaut de concurrence en économie de marché que vérifie ici le Pentagone. Le nombre de fournisseurs de missiles tactiques était de 13, il n'est plus que de 3. Celui d'avions à ailes fixes est passé de 8 à 3 également. Et là où il y avait 8 industriels du satellite, il n'y en a plus que la moitié. Mais il faut voir qu'en 1993, c'est le numéro 2 du ministère qui avait convié les dirigeants du secteur à un repas resté célèbre. On en a parlé comme du dernier dîner. Ils avaient été priés de se regrouper car les coupes budgétaires après la chute de l'Union soviétique mettraient en péril au moins la moitié des constructeurs d'avions de combat, de missiles et autres satellites aux États-Unis. Le risque fondamental pointé à présent serait qu'un fournisseur dominant puisse être influencé par une nation adversaire. Alors réinjecter de la concurrence dans ce secteur deviendrait priorité absolue. Il se pourrait que les intentions de ce rapport se soient déjà matérialisées. Lockheed Martin a renoncé récemment au rachat d'un fabricant de moteurs de fusée. Pour la première fois depuis des décennies, l'autorité américaine de la concurrence a exprimé expressément cette année son opposition en invoquant une volonté d'empêcher le plus gros groupe de défense au monde d'éliminer, je cite, le dernier fabricant indépendant dans son domaine. La stimulation de la compétition industrielle préconisée par le bureau des acquisitions du Pentagone, la Maison Blanche, l'a en tout cas aussitôt reprise à son compte dans une note d'information. Elle a par exemple relevé que les petites entreprises du secteur produisent 16 fois et demi plus de brevets que les grandes. Et cette condamnation de la rente de l'industrie de défense est reliée par le sommet de l'exécutif américain à une volonté générale du président Joe Biden de sanctionner tous les abus de position dominante au cœur de la première économie du monde.
Il est 7h29 à suivre dans cette prochaine demi-heure le bilan des incendies autour du bassin d'Arcachon. Les touristes sont de retour après une série d'annulations. Juste après les incendies, on fera le bilan de ce mois de juillet et les perspectives pour le reste de l'été avec Franck Chaume, président de l'UMIH de Gironde, l'Union des métiers et des industries d'hôtellerie, sera mon invité tout à l'heure à 7h45. Il est bientôt 7h30. Et on fait un nouveau point sur l'actualité économique avec Claire Sergent. Claire, on parle de gaz de nouveau. Ce matin, les Européens sont appelés dès demain à se serrer la ceinture.
Ah oui, la réduction de 15% de la consommation décidée au sein de l'Union Européenne entre en effet en vigueur demain. Publication au journal officiel aujourd'hui. L'accord décidé en fin de mois dernier prévoit que chaque pays fasse tout son possible pour y parvenir. Alors pendant ce temps-là, le remplissage des réserves de gaz pour l'hiver prochain à partir de GNL, de gaz naturel liquéfié, s'intensifie. Mais nous ne sommes pas les seuls à saisir cette alternative. Les pays asiatiques, qui en étaient jusque-là les principaux importateurs, et commencent d'ailleurs à s'inquiéter. Valentin Grille.
La bataille pour les méthaniers et leur GNL est plus rude que jamais. Les Européens se montrent prêts à payer plus cher pour remplir leurs réserves. Le mégawattheure s'achète 25% plus cher en Europe, au-delà des $200. Résultat, alors que la Chine, le Japon et la Corée sont les trois principaux consommateurs, les producteurs préfèrent désormais le vieux continent. Les États-Unis, qui lui consacrent habituellement un tiers de leurs ventes, lui ont envoyé 74% de leur production de GNL sur le premier trimestre de 2022. Certains vendeurs vont jusqu'à casser les contrats à terme asiatiques pour vendre plus cher en Europe sur le marché spot. Malgré les pénalités, ils restent gagnants. Les prix en Asie pourraient donc encore flamber cet hiver quand les stocks devront être reconstitués. Et les économies les plus fragiles pourraient même affronter des pénuries. Seule éclaircie, la Chine, dont la demande en GNL demeure faible à cause du Covid et qui se permet même de revendre son surplus à ses voisins. Mais la reprise attendue pourrait accentuer une concurrence déjà féroce pour le gaz.
Les États-Unis lancent leur grand plan pour le climat et la santé, Claire.
430 milliards de dollars d'investissement, c'est l'enveloppe de ce plan, un plan historique voté hier au Sénat américain, destiné notamment à faire baisser les émissions de gaz à effet de serre de la première puissance mondiale. Le résultat de nombreux mois de négociations, et c'est une victoire politique pour Joe Biden. À New York, Loubna Anakis, la correspondante de BFM Business.
Oui, absolument, car il faut savoir que ce plan est au cœur de l'agenda politique de Joe Biden. Il avait même fait campagne sur certaines de ses promesses et ce plan était effectivement bloqué depuis 18 mois, principalement en raison de divisions au sein même du Parti démocrate. Il aura fallu de longues négociations pour arriver à cette version finale, qui d'ailleurs, selon certains, ne représente qu'une infime partie du plan original. Cela reste tout de même un plan d'investissement massif pour le climat, pour accompagner la transition énergétique, pour la santé, pour faire baisser notamment les prix de certains certains médicaments comme l'insuline. Et aussi, ce plan prévoit une nouvelle mesure, un nouvel impôt de 15% pour les entreprises dont les bénéfices dépassent le 1 milliard de dollars. Selon les démocrates, ça permettra notamment de faire baisser le déficit. À 90 jours des élections demi-mandat, c'est forcément une victoire pour Joe Biden et pour les démocrates qui vont pouvoir faire campagne sur ce plan qui désormais doit encore être validé par la Chambre des représentants avant d'être signé par Joe Biden.
Des hausses de crédit inédites pour l'éducation, le travail, les solidarités, la justice n'est pas en reste. C'est Gabriel Attal, le ministre délégué aux comptes publics, qui l'annonce dans Les Échos. Le gouvernement veut augmenter de 12,5 milliards d'euros le budget de l'éducation, du travail et des solidarités l'année prochaine. Rien que pour l'emploi, ce sera 6,7 milliards supplémentaires. Mais le gouvernement s'engage par ailleurs à réduire les dépenses de 0,3% en volume global l'année prochaine et maintient inchangé son objectif de ramener en dessous des 3% le déficit public d'ici 2027.
Le bilan de la retraite de Russie, les entreprises françaises ont finalement réussi à quitter le pays sans trop de casse.
Ah oui, le montant de la facture, alors il est certes élevé, à plus de 15 milliards d'euros de pertes au total, mais pour le reste, les conséquences sont en fait limitées. Caroline Morisseau.
De lourdes factures, mais pas d'accidents majeurs. 16 des 40 groupes du CAC ont vu leurs résultats amputés à cause de leur retrait de la Russie, pour un montant total de plus de 15 milliards d'euros. Parmi les plus exposés, Total Energy a payé à lui seul près de la moitié de la facture, plus de 7 milliards d'euros de pertes et de dépréciation. Mais cela n'a pas empêché le groupe de publier des bénéfices records grâce à la flambée des prix de l'énergie. Même chose pour Engie, qui malgré le coût de la Russie, 1 milliard d'euros, a réalisé des profits records. Deux groupes, en revanche, ont basculé dans le rouge. Renault, qui a dû passer 2,3 milliards d'euros de pertes suite à la cession d'Avtovaz. Mais là encore, pas de quoi entamer l'optimisme du groupe, qui a même revu ses perspectives financières à la hausse pour 2022. Enfin, la Société Générale a dû débourser 3,3 milliards d'euros pour se débarrasser de sa filiale Rosebank. Mais ses performances commerciales ont permis d'amortir le choc. L'activité s'est tellement bien portée par ailleurs que la banque s'en sort avec une perte de seulement 1,5 milliard. Pour tous, le choc semble donc déjà absorbé.
Amazon s'offre les aspirateurs robots Roomba.
Et le géant américain du commerce en ligne rachète le fabricant iRobot pour 1,7 milliard de dollars. C'est la quatrième plus grosse acquisition d'Amazon après Whole Foods, les studios de cinéma MGM et un réseau de santé américain. Il se constitue un portefeuille de produits connectés, Hélène Cornet.
On en est à la 10e génération de l'aspirateur Roomba, toujours plus efficace, toujours plus autonome, toujours plus connecté. Son créateur, le fabricant iRobot, en a déjà vendu plus de 40 millions en une vingtaine d'années. Une innovation qu'Amazon connaît bien, c'est le produit vedette des Prime Days depuis 8 ans. Le géant du commerce en ligne va pouvoir ainsi élargir sa gamme de produits et services connectés pour la maison. Les enceintes Echo, les sonnettes intelligentes Ring, les caméras de surveillance Blink par exemple. Plus de 100 millions d'appareils dans le monde seraient compatibles avec le système de commande vocale Alexa. C'est tout un écosystème qu'Amazon est en train de créer pour envahir toutes les pièces de la maison et récolter par la même occasion autant de données sur ses clients. La domotique est le segment le plus porteur des objets connectés, un marché estimé à 69 milliards de dollars en 2020 et largement occupé par les trois géants américains, Apple, Google et Amazon.
La Chine qui entend poursuivre dès aujourd'hui ses exercices militaires autour de Taïwan. C'est le gouvernement chinois qui l'apprend. Les tensions actuelles dans le détroit de Taïwan sont de la responsabilité du camp américain, affirme Pékin. Pékin qui avertit les Américains. Ils devront faire face à des conséquences graves. La Chine refuse d'ouvrir des discussions avec les États-Unis suite à la visite de Nancy Pelosi sur l'île la semaine dernière. De son côté, la Maison-Blanche dénonce une réaction irresponsable et disproportionnée. Et à 8h15, Stéphane, c'est Shi Chongwu, le représentant de Taipei en France, qui sera votre invité.
Y a-t-il un risque de dérapage? Quel avenir pour l'industrie des semi-conducteurs? On parlera effectivement de tous ces sujets tout à l'heure à 8h15.
Toute attaque contre des centrales nucléaires est une chose suicidaire, déclare le chef de l'ONU lors d'une conférence de presse à Tokyo. Antonio Guterres demande l'arrêt des opérations militaires autour de la centrale de Zaporijjia en Ukraine, dont Kiev et Moscou s'accusent mutuellement. Il souhaite que l'Agence internationale de l'énergie atomique puisse accéder à cette centrale.
Merci beaucoup Claire Sergent. On se retrouve tout à l'heure dans le journal de 8h. BFM Crypto, il est 7h37.
BFM Business, BFM Crypto, la chronique.
Antoine Larigaudry en direct du siège d'Euronext à La Défense. Antoine, d'abord la tendance sur les cryptos ce matin.
Alors l'amélioration se confirme, elle a pris corps vendredi, on pousse les feux sur le Bitcoin au-delà des 23 000 dollars encore ce matin, dernier record à battre ces derniers jours, les 23 400, on va voir si la résistance tient, un peu plus de 1 700 sur l'Ether, mais tendance un petit peu moins bonne, notamment sur le Monero et le Bitcoin Cash.
On va revenir, Antoine, ce matin sur le dossier MicroStrategy. Son PDG, devenu grand gourou du Bitcoin, va prendre du recul et céder ses fonctions opérationnelles à un nouveau directeur général.
Oui, Fong Lee, c'est son nom. Il va prendre le poste et gérer les affaires de MicroStrategy. On le rappelle, spécialiste du logiciel d'analyse de données pour les entreprises, qui a pris un sacré coup sur la tête à cause d'investissements hasardeux. Bon, disons-le, catastrophique hein, sur les crypto-monnaies, notamment sur le Bitcoin. Le titre perd 57% en bourse sur un an et il était temps de réorganiser la direction, d'autant que c'est donc l'ex-patron opérationnel, Michael Saylor, fondateur, qui en était à l'origine tellement convaincu d'adopter une stratégie d'entreprise basée sur le Bitcoin qu'il en est devenu une des grandes voix du côté de la communauté financière américaine, à tel point qu'on le soupçonnait d'avoir un petit peu lâché la rampe de son business d'origine. Donc Michael Saylor prend du recul, mais c'est une drôle de prise de recul. En gros, il reste président exécutif de MicroStrategy, membre du conseil et surtout responsable direct des investissements. Donc en gros, on donne quelques gages en termes de gouvernance, mais autant dire qu'en réalité, Michael Saylor est désormais plus engagé que jamais sur son nouveau dada. D'ailleurs, il l'a dit encore il y a quelques jours à travers certains tweets, le Bitcoin est la meilleure idée, il n'y en a pas d'autre. Depuis août 2020 et le début de notre stratégie Bitcoin, MicroStrategy a surperformé 97% des entreprises cotées au S&P 500. Donc, qu'on ne s'y trompe pas, ce qui ressemble à une mise à l'écart va en réalité pousser encore plus loin Michael Saylor dans ses convictions, sans doute moins exposé désormais s'il n'a plus les rênes opérationnelles de son entreprise. De quoi veiller avec encore plus de soin sur la cagnotte en Bitcoin accumulée par MicroStrategy ces dernières années. Elle a beaucoup perdu de valeur ces derniers mois, certes, mais 129 000 Bitcoins au cours actuel, on est quand même sur un trésor de guerre de 3 milliards de dollars quand même.
Merci beaucoup Antoine Larigaudry. On se retrouve tout à l'heure juste après le journal de 8h. On verra comment se dessine cette première séance de la semaine à la Bourse de Paris. Une question à présent. Les salariés d'une entreprise peuvent-ils effectuer du bénévolat sur leurs heures de travail? Écoutez la réponse de Thomas Schnell.
Good morning business, BFM Business avec vous.
On a une question d'un employeur qui nous écoute sur BFM Business. Il souhaite permettre à ses salariés de réaliser quelques jours de bénévolat par an pour le compte d'une association de leur choix sur leur temps de travail. Est-ce qu'ils doivent faire signer un avenant au contrat de travail? Eh bien oui, cela s'appelle d'ailleurs le mécénat de compétences. Alors le plus simple, c'est de pratiquer la mise à disposition du collaborateur. Il faut pour cela bien sûr un avenant au contrat de travail. Il faut aussi une convention qui va être signée entre l'entreprise et l'association utilisatrice. Le CSE peut aussi être consulté en amont si jamais il y en a un au sein l'entreprise.
Et c'est déjà très en vogue dans les pays anglo-saxons. On va parler d'Uber à présent. Uber qui interdit les nouveaux véhicules diesel dans son application pour accompagner la transition écologique évidemment, mais aussi pour s'adapter aux restrictions qui sont imposées par de plus en plus d'agglomérations. Reportage signé Cyril Ariel.
Good morning business, impact.
Vous ne pourrez bientôt plus monter dans un véhicule Uber diesel. Depuis le début du mois, l'application interdit désormais à tous les véhicules diesel de s'enregistrer sur la plateforme. Nous sommes avec la directrice générale de Uber France, Laureline Series. Alors actuellement, près de deux tiers de vos chauffeurs roulent en véhicule diesel. Comment allez-vous les accompagner ?
C'est l'investissement de 75 millions d'euros que nous souhaitons réaliser à horizon 2025. Ça va consister par exemple pour un chauffeur qui roule 42 heures par semaine sur la plateforme en une subvention de 4 500 euros qui va lui permettre l'achat de son véhicule. On a mis en place des partenariats comme par exemple avec l'alliance Renault-Nissan qui permet aux chauffeurs d'avoir accès à des véhicules électriques à des tarifs préférentiels entre moins 18 et moins 25% sur le prix neuf du véhicule en fonction des modèles.
Uber l'assure, 35% de ses chauffeurs prévoient de passer à l'électrique cette année. L'Ocean a sauté le pas au mois de novembre dernier. Vous louez une Tesla. Pourquoi et ça vous coûte combien ?
Ce véhicule, effectivement, me coûte un peu plus cher qu'un véhicule thermique, c'est-à-dire que ça me coûte 500 euros au lieu de 400. Mais ce montant de 100 euros, il est tout de suite amorti par l'entretien qu'on ne fait plus sur ce véhicule-là et sur l'économie carburant qu'on fait sur ce dernier.
Ça se passe comment au niveau de vos courses ?
j'ai pratiquement entre 20 et 25% de courses en plus par rapport à avant.
À l'échelle mondiale, Uber ambitionne d'atteindre la neutralité carbone à horizon 2040. Un enjeu de taille, nous recensons près de 48 000 décès par an en France liés à la pollution atmosphérique.
Cyrielle Ariel avec Kenzo Marcelin. À suivre dans un instant, on va parler de l'activité touristique en France. On se dirige vers un été record. On en parlait il y a déjà quelques jours, avec toutefois quelques bémols, notamment dans la région du bassin d'Arcachon où les incendies ont provoqué une vague d'annulation. Bonne nouvelle toutefois, les touristes sont de retour. On en parlera avec Franck Chaume, président de l'UMIH de Gironde, juste après la pause. Restez avec nous.
Télé, radio et digital. Good morning business.
Après deux ans de crise sanitaire, l'activité touristique a nettement rebondi en France. Les professionnels du secteur s'attendent à un été record après les très bons chiffres du mois de juillet. Avec toutefois quelques bémols autour du bassin d'Arcachon, plusieurs campings ont été détruits par les incendies avec évidemment de lourdes conséquences pour l'activité touristique. On va faire le point avec Franck Chaume, président de l'UMIH, UMI de Gironde, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Bonjour, merci d'être en duplex avec nous. Vous avez été confronté à une vague d'annulation fin juillet après les incendies qui ont frappé le sud de la Gironde. Quelle est aujourd'hui la situation ? Est-ce que les touristes sont de retour ?
On a un petit regain depuis 3-4 jours, juste avant le week-end. On a l'impression que ça bouge un peu plus que les 15 derniers jours, bien évidemment, à cause des incendies de forêt.
Quel est aujourd'hui l'état d'esprit des professionnels du tourisme dans la région ? Est-ce qu'ils sont confiants sur le fait que le mois d'août leur permettra de rattraper une partie du manque à gagner ?
Alors tout d'abord, déjà dans la profession, on ne rattrape jamais ce qu'on a perdu, hein, parce que quand on a un nombre de couverts un soir ou dans la journée, on ne peut jamais rattraper ce qui a été perdu les jours précédents. Donc ça, c'est impossible. On espère juste que la météo sera clémente au mois de septembre avec nous pour avoir une arrière-saison, dirons-nous, bénéfique. Après, quel est le moral ? Vous savez, on vient de subir 15 jours assez sidérants. Le principal, c'est qu'il n'y ait pas de victimes, dirons-nous. Donc, on retient que ça. Après, on espère, on a une région et un cadre qui est magnifique. On espère que les touristes seront au rendez-vous tout le mois d'août et au mois de septembre.
Est-ce que les touristes qui ont dû annuler leur venue dans les campings se sont, pour certains, reportés sur d'autres types d'hébergements, et je pense notamment à l'hôtellerie ?
Alors, on l'espère, toujours. On n'a pas encore les chiffres, hein, parce que c'est quand même assez frais. On espère que tous ces touristes, alors ceux qui étaient dans les séjours proches, dirons-nous, les incendies, ceux-là, on sait que ce n'est pas possible, ils ont dû partir sur d'autres destinations. Maintenant, ceux qui avaient programmé leur venue sur le mois d'août et sur le mois de septembre, on espère qu'ils ont trouvé ou qu'ils ont réservé dans nos hôtels. On a un regain, on pense que ça va aller mieux dans le mois d'août et au mois de septembre.
Vous le dites, c'est encore assez frais, c'est difficile de faire les comptes, mais est-ce que vous avez pu chiffrer grosso modo l'impact économique des incendies ? On sait que plusieurs campings ont été détruits. Vous le disiez récemment, 1 euro dépensé dans un camping, ce sont à peu près 3 euros dépensés à l'extérieur.
Oui, parce qu'on a une image du camping qu'on voyait auparavant. Aujourd'hui, les campings sont des campings de luxe, dirons-nous, c'est un peu des mini Club Med. Donc, il y a un pouvoir d'achat quand même qui est relativement important. Déjà, il y a 8 à 10 000 personnes qui travaillent sur ces 5 campings, ce qui n'est pas rien. Et quand on sait que 1 euro dépensé dans un camping, il dépense 3 euros à l'extérieur du camping, ça prouve que c'est une manne financière touristique et importante pour nous.
Quels sont les commerces ou les activités qui ont été le plus touchées ? On imagine la restauration, mais est-ce que, par exemple, les locations de vélos ont été affectées ?
Oui, alors moi, comme vous le voyez derrière moi, je suis sur le port d'Arcachon et bien évidemment, tous les secteurs ont été touchés, les magasins de vêtements, de souvenirs, les locations de bains, les locations de vélos, les locations de villas, d'hôtellerie pour nous concernant et la restauration. Tout le monde a été touché, on est à moins 40%, ce qui n'est pas rien dans un compte d'exploitation, vous imaginez bien. Mais bon, voilà, on a espoir parce que d'abord, nous, la profession, on est quand même des gens assez optimiste, on s'est relevé des gilets jaunes, on s'est relevé de la Covid, et bien écoutez, c'est dans notre région une catastrophe, mais on va faire en sorte de se relever aussi une énième fois.
Évidemment, on ne peut pas aller plus vite que la nature, il va falloir replanter ces forêts qui ont été détruites par les incendies. Comment est-ce que vous voyez les années qui viennent en matière de tourisme ?
Je pense que déjà le SIBA, donc le syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon, a fait une vidéo, fait une promotion qui est assez représentative. Je crois que aujourd'hui le bassin d'Arcachon, c'est la forêt et l'eau. Et aujourd'hui, l'eau est toujours intacte. La forêt a été touchée, effectivement. Mais bon, on est quand même une des plus grandes forêts d'Europe. Donc la nature va reprendre ses droits. On espère que d'ici quelques années, dirons-nous, ça sera plus qu'un mauvais souvenir.
Vous parliez de l'eau. C'est un problème cet été en France, la sécheresse historique qui a d'ailleurs entraîné l'ouverture d'une cellule de crise au niveau ministériel. Est-ce que ça complique encore l'activité touristique, le manque d'eau et la sécheresse cet été ?
Alors pour nous sur le bassin d'Arcachon, non, parce que j'ai pas l'impression, parce que bon, on est quand même face à un plan d'eau. Effectivement, le soleil, nous on aime dans notre commerce, on aime bien quand il y a du soleil. Bon, c'est vrai que il y en a un peu trop et par rapport à nos producteurs, ceux qui nourrissent nos restaurants, c'est important qu'il y ait de l'eau qui arrive. Mais bon, s'il pleuvait la nuit et qu'il faisait beau le jour, pour nous ça serait parfait. Mais je pense que bon, tout va bien se passer là-dessus.
Les touristes sont de retour cet été en France. Les professionnels du tourisme, en général, sont plutôt très satisfaits de ce début de saison. Pour autant, est-ce que les touristes dépensent autant qu'avant la crise sanitaire ?
Alors, je pense que le touriste étranger, il dépense autant. On le voit sur Bordeaux, puisqu'aujourd'hui, Bordeaux est en effervescence. Tous les touristes ont reporté leur séjour depuis les deux, trois dernières années du Covid, les étrangers. Donc, ils sont venus, ils ont répondu présent. On a une manne touristique étrangère qui est de l'ordre de 80%, donc c'est assez important. Après, nous concernant sur le bassin d'Arcachon, les gens avec le pouvoir d'achat font attention, ça c'est sûr. Il y a moins d'allers-retours entre Bordeaux et le bassin d'Arcachon, mais bon, l'un dans l'autre, on sent quand même qu'il y a un regard sur les dépenses.
Quelles sont les dépenses qui font l'objet d'arbitrage ? Est-ce que par exemple les touristes vont un petit peu moins au restaurant ou est-ce qu'ils achètent moins de souvenirs peut-être ?
Alors, les souvenirs, je ne peux pas répondre à leur place, mais oui, nous concernant, évidemment, on regarde toujours. Après, peut-être qu'on ne prend pas de dessert si on a un pouvoir d'achat un peu plus bas ou on va moins manger de glace la journée. Mais je pense que, vous savez, avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, ces fermetures dues au Covid, je crois que les gens ont envie de vivre et ont envie de consommer. Donc là-dessus, je suis assez optimiste.
Une dernière question. Quel est le profil des touristes qui aujourd'hui se rendent en Gironde et autour du bassin d'Arcachon ? À Paris, on voit bien que la clientèle internationale est de retour. C'est vrai aussi pour vous ?
Alors, comme je vous disais, Bordeaux, oui. Bordeaux, tout l'international est revenu comme avant, même voire plus. C'est tous les reports de séjour qui sont arrivés. Nous concernant sur le bassin, non, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'étrangers, mais bon, je crois que c'est pas les étrangers qui vont forcément faire notre bonheur. C'est le monde, c'est les touristes en général, le français, celui qui est dans la région d'à côté. C'est surtout ça qui nous intéresse. C'est déjà de faire comprendre plutôt à ces touristes et qui peuvent venir chez nous que c'est une région extraordinaire. Il n'y a pas que la forêt, il y a la forêt et l'eau, que l'eau est là, que le plan d'eau est magnifique, qu'on a un cadre idyllique. Donc je crois que voilà, il faut les inciter, il faut que vous, les médias, bien évidemment, vous nous aidez parce qu'on a besoin de vous pour avoir ce regain d'optimisme.
C'est effectivement une région magnifique. Merci à vous, Franck Chaume, d'avoir été en duplex avec nous.
Merci,
président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie pour la Gironde, avec donc l'impact des incendies et le retour des touristes depuis quelques jours. Nouvelle série d'été à présent sur BFM Business. Tout au long de la semaine, Aude Kersulec nous emmène à la découverte des grandes marques de luxe. Coup de projecteur ce matin sur l'une des maisons de couture les plus emblématiques de notre pays, fondée à Paris il y a plus d'un siècle.
Aujourd'hui, l'histoire de la maison de luxe Chanel. Chanel est sûrement l'une des marques les plus connues au monde. L'entreprise, elle, est pourtant très secrète, tout comme elle était la créatrice. À l'origine, Gabrielle Chanel n'a pas toutes les cartes en main pour réussir. Une enfance passée à l'orphelinat, des débuts de chanteuse dans un cabaret et quelques bases de couture. C'est grâce à ses rencontres et à ses amants que Gabrielle se familiarise à la haute société, sans en adopter tous les codes. Les corsets et les crinolines, trop peu pour elle. Gabrielle est une femme bien plus moderne que ça. Elle conçoit ses vêtements, se coupe les cheveux, s'habille en pantalon et porte son sac en bandoulière. Une femme qui habille les femmes, le bouche à oreille va aller très vite. Aidée de ses amis, Gabrielle ouvre une première boutique rue Cambon à Paris, puis le succès l'emmène à Deauville, puis à Biarritz. Lors des années folles, les années 20, c'est surtout un chiffre qui va lui apporter la prospérité. Numéro 5, un parfum, une senteur inédite pour l'époque, moderne et sobre. Alors dans cette aventure, Gabrielle ne peut pas se lancer seule. En matière de parfumerie, elle manque totalement de moyens de production et elle est contrainte de trouver des associés. Elle va trouver sur son chemin les frères Wertheimer, pas inconnus dans le milieu parisien de l'époque. Leur famille est notamment à l'origine de la création des Galeries Lafayette. Mais cette union entre Chanel et Wertheimer est loin d'être simple. À côté de la maison de couture qui lui appartient, une nouvelle société est créée, Parfum Chanel. De celle-ci, Coco Chanel n'en détient que 10%. Au fil des années et des ventes, l'atroce emmerdeuse, comme on l'appelle, essaie de renégocier sa part par tous les moyens. Quand la Seconde Guerre mondiale passe par là, les Wertheimer exilés aux États-Unis réussissent néanmoins à éviter l'expropriation de leur part. Défaite, Gabrielle Chanel licencie ses couturières et part s'exiler en Suisse pendant 10 ans. C'est Christian Dior et son New Look qui va la remettre dans le jeu. Pas rancunière, elle va chercher Pierre Wertheimer pour la financer. Tous deux conviennent d'un pacte. Parfum Chanel rachète la maison de luxe. Gabrielle conserve la direction et surtout son train de vie est assuré. Une suite au Ritz, des employés de maison, des voitures. Pierre Wertheimer veut que sa petite protégée continue de créer dans les meilleures conditions possibles. Tailleur en tweed, marinière, sac de 55, les pièces iconiques s'enchaînent. Dans les années 70, peu avant que Gabrielle Chanel ne meure, sans héritier direct, les petits-fils de Pierre Wertheimer reprennent le flambeau. Alain et Gérard sont toujours aujourd'hui aux rênes de la société. Ils n'ont pas ouvert leur capital et Chanel est l'un des rares groupes de luxe à avoir gardé son indépendance, son mystère aussi. La maison est pilotée de Londres, d'Amsterdam et de New York. Elle ne dévoile que très peu de chiffres. Les frères Wertheimer sont aujourd'hui la deuxième fortune française. Leur pactole est estimé à 80 milliards d'euros.
La saga du luxe à retrouver tout au long de la semaine avec Aude Kersulek dans la matinale de BFM Business et RMC Découverte. On marque une pause, juste après ce sera le journal de Claire Sergent. Tout à l'heure à 8h15, le directeur du bureau de représentation de Taipei en France sera mon invité. On parlera évidemment des manœuvres militaires de la Chine au large de Taïwan et du risque d'escalade à suivre donc tout à l'heure à 8h15.
Télé, radio et digital. Good morning business. Stéphane Pedrazzi.
Il est tout juste 8h. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre à la une de l'actualité. Une nouvelle vague de chaleur attendue cette semaine en France alors que le pays enregistre déjà une sécheresse historique. La gestion de l'eau complique davantage la situation en pleine saison touristique. On va y revenir en détail dans un instant. Les Européens appelés à se serrer la ceinture et à restreindre dès cette semaine leur consommation de gaz afin de permettre au pays de reconstituer leur stock. On en parlera en détail tout à l'heure dans le journal de 8h30. Et puis on parlera également de la Chine qui va poursuivre ses manœuvres militaires au large de l'île de Taïwan afin de protester contre la visite il y a quelques jours de Nancy Pelosi, la présidente américaine de la Chambre des représentants. Les manœuvres devaient durer 4 jours au départ, elles vont donc se poursuivre. Y a-t-il un risque d'escalade? On en parlera à 8h15 avec Chin Chung Wu, le directeur du bureau de représentation de Taipei en France. 8h, passé de 1 minute le journal.
Retrouvez votre rendez-vous avec veracash.fr. Un compte, une carte et un accès aux métaux précieux.
Et Et on fait un nouveau point sur l'actualité économique avec Claire Sergent. La France, Claire, semble impuissante à lutter contre la sécheresse alors qu'elle se prépare à affronter sa quatrième vague de chaleur dans les prochains jours.
Et oui, cette nouvelle période de chaleur qui doit durer jusqu'au 15 août et qui inquiète alors que 57 départements sont en crise hydrique. Des restrictions concernent déjà la quasi-totalité du territoire. Pourtant, la France est en Europe l'un des pays qui reçoit le plus d'eau avec la Norvège, mais elle est l'un des plus mauvais élèves quand il s'agit de la stocker, mais aussi de la retraiter, Sofiane Aklouf.
99% des eaux usées finissent dans les cours d'eau ou dans la mer directement à la sortie de nos 22 000 stations d'épuration en France. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que ce traitement des eaux usées est sous-exploité. 10 stations disposent d'installations pour réutiliser cette eau. S'il y en a si peu, c'est notamment à cause des normes très strictes, explique Thierry Burlot, le président du Cercle français de l'eau.
C'est quand même un peu paradoxal qu'on ne puisse pas aujourd'hui réutiliser ces eaux à partir du moment, bien sûr, où elles respectent les normes sanitaires. Aujourd'hui, si je prends l'exemple de la Bretagne, on a des industries agroalimentaires qui consomment beaucoup d'eau et qui sont capables de les retraiter et de les mettre au seuil de potabilité. Et en France, on n'aurait pas le droit, à cause des autorisations sanitaires du ministère de la Santé, de les utiliser, ce qui est quand même un paradoxe. Alors qu'en Espagne, au Portugal, en Israël et dans tant de pays dans le monde, aujourd'hui, on produit des denrées alimentaires avec ces eaux recyclées. Donc la réutilisation des eaux, c'est une vraie solution qu'il va falloir apporter si on veut partager l'eau et l'économiser.
Bah c'est vrai, d'autant que dans d'autres pays, les terres sont irriguées avec l'eau recyclée. L'Espagne tire profit de 14% de ses eaux usées. Israël, 80%, ça fait rêver.
Bon, j'allais vous couper un peu trop tôt, mais Sofiane, il y a pourtant un savoir-faire en France.
Oui, vous voulez le dire et vous avez raison, Claire, puisque Veolia compte avancer sur le traitement des eaux usées. Le premier opérateur mondial de l'eau a annoncé vouloir équiper 100 stations d'épuration en France pour réutiliser cette eau non potable. Mais si on se retrouve dans cette situation cet été, avec plus d'eau dans les canalisations d'une centaine de communes en France, bah, c'est à cause d'un sous-investissement chronique. C'est le même principe que pour le réseau ferré de France. Parfois, les rails sont usés, il faut les remplacer. Mais sauf que dans certaines régions, les infrastructures n'ont pas été renouvelées depuis l'après-guerre. Résultat, le taux de fuite atteint 20%, sans compter qu'on a pris beaucoup de retard. L'équipement de ces 100 stations d'épuration de Veolia permettra d'économiser 3 millions de mètres cubes d'eau potable par an. C'est la consommation d'une ville de 180 000 habitants, selon l'opérateur. C'est pas mal, c'est un bon premier pas, mais ça reste une goutte d'eau comparée aux plus de 5 milliards de mètres cubes consommés chaque année en France.
Merci Sofiane. Avec ces vagues de chaleur à répétition, les incendies se sont multipliés, entraînant des dégâts considérables dans les forêts et de lourdes pertes pour les exploitants dans le secteur touristique.
Ah oui, la Gironde, qui compte plus de 20 000 hectares de forêts, toujours en vigilance rouge incendie depuis le 1er août. Les exploitants des forêts sont sur le qui-vive. Ils doivent attendre que le feu soit officiellement éteint pour tenter de sauver au plus vite le bois incendié. Laura Cambeau.
C'est une course contre la montre pour sauver ce qui peut encore l'être. La filière bois de Gironde se tient prête à aller chercher le bois brûlé dans les incendies. Éric Constantin est le délégué régional de Nouvelle-Aquitaine de l'Office national des forêts.
À ce jour, sur les deux incendies, il est considéré à peu près 2,5 millions de mètres cubes de bois incendié. Ça représente la moitié d'une année de récolte normale du massif des Landes de Gascogne.
Pour limiter les pertes, ce bois doit être récupéré avant d'être ravagé par les insectes et les champignons. D'une qualité inférieure, il pourra tout de même être utilisé pour faire des palettes de bois et de la pâte à papier. L'Office national des forêts espère avoir le feu vert des pompiers pour la mi-septembre.
C'est crucial de récolter ce bois tout en continuant à récolter du bois vert par rapport à la filière bois qui a besoin aussi d'être approvisionné en bois entre guillemets normal de façon à pouvoir faire face à ces carnets de commandes. La filière bois marche plutôt bien en ce moment. On a une forte demande.
Principal défi pour les exploitants des forêts, trouver la main-d'œuvre nécessaire pour répondre à cette demande. L'ONF envisage de travailler avec des entreprises installées en dehors du massif, voire à l'étranger, pour récolter le maximum de bois.
Le gouvernement maintient son objectif de ramener le déficit public en dessous des 3% d'ici la fin du quinquennat. Les dépenses publiques diminueront de 0,3% en volume l'an prochain, affirme Gabriel Attal, le ministre délégué aux comptes publics dans les Échos. Des économies qui viendront des réformes que le gouvernement veut mettre en place, les retraites et l'assurance chômage. C'est ce qu'affirme le ministre. Il ajoute « Chaque ministère est par ailleurs engagé à rechercher des économies dans son périmètre ». Gabriel Attal chiffre à 8 milliards d'euros les économies liées à la fin progressive du quoi qu'il en coûte. Et dans l'actualité des entreprises, on vous parlait de Veolia. Le groupe annonce un accord avec le groupe australien Macquarie pour céder les activités déchets de Suez au Royaume-Uni. Montant de la vente 2,4 milliards d'euros. Une opération qui vise à répondre aux préoccupations de l'autorité de la concurrence britannique. Et la directrice générale de Veolia se dit à l'instant très confiante pour obtenir cet accord de l'autorité de la concurrence.
La concentration dans le secteur français des médias, il n'y a pas de plan B pour la fusion avec TF1.
Ah oui, déclaration de Thomas Rabe, le patron de Bertelsmann et le propriétaire d'M6 vendredi. Alors que le compte à rebours est lancé, il reste une semaine aux deux chaînes pour répondre à l'autorité de la concurrence qui refuse leur mariage. Pour le groupe allemand, l'enjeu est avant tout européen, Mathieu Pechberti.
C'est la dernière ligne droite pour TF1 et M6. Les deux groupes doivent remettre mi-août leur argumentaire pour justifier leur fusion auprès de l'autorité de la concurrence. L'enjeu, lui, prouver que la pub télé et digitale convergent et qu'elles ne formeront bientôt plus qu'un seul marché. TF1 et M6 jugent que leurs parts de marché, aujourd'hui dominantes dans la pub télé, sont en réalité bien plus faibles en comptant celles des GAFA dans le streaming et la vidéo à la demande. Il s'appuie sur la récente offre de Netflix avec de la publicité et l'achat des droits du foot par Amazon. L'antitrust note le début de cette évolution, mais a prévenu qu'il lui faudrait des faits incontestables pour changer sa doctrine. Pour le propriétaire de M6, l'allemand Bertelsmann, l'enjeu de la fusion avec TF1 est majeur. Si elle est acceptée par l'autorité de la concurrence française, il plaidera pour appliquer cette nouvelle donne dans tous les pays européens. Le groupe essaye également de consolider le marché aux Pays-Bas avec sa filiale RTL. Son patron Thomas Rabe plaide aussi pour marier RTL en Allemagne avec ProSieben.
C'était l'un des grands gagnants de la pandémie. Les Français confinés avaient massivement acheté des barbecues Weber. Aujourd'hui, le roi du barbecue américain voit son succès retomber.
Ah oui, avec une inflation au plus haut depuis 40 ans, le commerce de détail souffre aux États-Unis et Weber voit ses ventes ralentir sur fond de mauvais résultats. Le titre a concédé près de deux tiers de sa valeur depuis son introduction à Wall Street il y a un an. Sabrina Sedghi et Léo Dumas.
Après avoir flambé pendant les confinements, la demande pour les barbecues s'essouffle. Les ventes de Weber ont reculé de 7% au premier trimestre, ce qui a entraîné une perte nette de 51 millions de dollars pour le fabricant. L'entreprise basée dans l'Illinois met en cause l'inflation et un effet de change négatif. Elle se plaint aussi de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Arrivée fièrement à Wall Street il y a un an avec l'ambition de lever 800 millions de dollars, Weber a été contraint de revoir ses prétentions à la baisse puisque depuis sa capitalisation s'est effondrée de 3 milliards de dollars. Et Weber est pessimiste, un nouveau déclin des ventes est attendu au troisième trimestre. Son PDG a été poussé à la démission et face à cette crise de la demande, l'entreprise envisage aussi des licenciements et prévoit de resserrer ses stocks.
La Chine veut poursuivre ses exercices militaires dès aujourd'hui près de Taïwan. Déclaration de Pékin tôt ce matin. Les tensions actuelles dans le détroit de Taïwan sont de la responsabilité du camp américain, affirme le gouvernement chinois qui avertit. Les Américains devront faire face à des conséquences graves. La Chine refuse d'ouvrir des discussions avec les États-Unis suite à la visite de Nancy Pelosi sur l'île la semaine dernière. De son côté, la Maison-Blanche dénonce une réaction irresponsable et disproportionnée.
Et beaucoup question ce matin, y a-t-il un risque d'escalade? Quelles conséquences sur l'industrie des semi-conducteurs? On en parlera avec Chin Chung Wu, représentant de Taipei en France, tout à l'heure à 8h15.
Toute attaque contre des centrales nucléaires est une chose suicidaire, a déclaré Antonio Guterres lors d'une conférence de presse à Tokyo. Le chef de l'ONU demande l'arrêt des opérations militaires autour de la centrale de Zaporijjia en Ukraine, dont Kiev et Moscou s'accusent mutuellement. Il souhaite que l'Agence internationale de l'énergie atomique puisse y accéder.
Merci beaucoup Claire, on se retrouve tout à l'heure à 8h30, les marchés financiers. Antoine Larigaudry en direct du siège d'Euronext à La Défense. Comment s'annonce ce début de semaine, Antoine ?
Même plutôt positif avec un CAC 40 qui devrait renouer dès le début de journée avec les 6500 points, un plus haut qui date de début juin, hein, qui date de deux mois. Donc du coup, bon an, mal an, et lentement et sûrement, et ça ira mieux avec le micro, effectivement, on a un CAC 40 qui renoue avec ses plus hauts de début juin, et effectivement la tendance est plutôt positive du côté des marchés asiatiques ce matin, ça aide. On sent un influx, une volonté de prendre des risques, hein, du côté des marchés européens. La journée sera calme du point de vue macroéconomique, et l'ensemble de la semaine, hein, excepté la journée de mercredi. On attend énormément de données d'inflation, notamment du côté de la Chine, des États-Unis et de l'Allemagne. Mais autrement, on a un marché qui est raisonnablement positif. Il faut dire que les volumes ne sont pas très très élevés, donc assez peu de volatilité, des secteurs à jouer, en particulier le secteur bancaire en fin de semaine dernière qui a fait l'actualité avec de belles progressions. On va voir comment ça se passe en début de matinée. Les autres fondamentaux de marché à noter, l'euro-dollar, hein, qui est sous 1,02, on est à 1,0185, mais avec un petit biais haussier, hein, qu'il faudra suivre. Puis le pétrole toujours loin sous les 100 $, 95,50 $ pour le baril de Brent de Mer du Nord, et le brut léger américain et même sous les 90 $.
Merci beaucoup Antoine Larigaudry en direct du siège d'Euronext à La Défense. L'innovation dans le secteur du luxe illustré par un chiffre très concret. Cette année, 16 maisons du groupe LVMH ont présenté leurs innovations au salon Vivatech qui s'est déroulé à Paris, au mois de juin. Noémie Vira a sélectionné pour nous trois tendances avec le directeur des investissements du groupe LVMH. Regardez.
Good Morning Business, commerce 2.0.
Franck Lemoyle, bonjour. Vous êtes directeur IT et technologie du groupe LVMH. Merci d'avoir accepté notre interview pour BFM Business. Alors là, vous nous présentez la montre la plus fine au monde. C'est une montre de Bulgarie.
La particularité de cette montre, c'est la première fois qu'on va avoir un parallèle entre un produit physique et un produit digital, puisque quand vous regardez sur la façade avant de cette montre, vous voyez un QR code. Ce QR code, il a été gravé sur un des composants de la montre. Vous allez pouvoir effectivement le scanner et vous allez vous retrouver dans un espace privé au client. Et ce client, dans cet espace privé, va trouver pour la première fois un NFT avec une œuvre d'art digitale, et en plus il va y trouver le certificat d'authenticité de la montre Bulgarie.
Alors là, ce qu'on voit derrière nous, c'est Louis Vuitton, et c'est une vendeuse qui parle avec votre nouvelle égérie, donc Livy, c'est un avatar.
La marque Louis Vuitton a mis en place un concept qui permet effectivement de prendre en vidéo real time un être humain. Donc ça peut être un vendeur, une vendeuse, une conseillère de vente, un concierge, une présentatrice, une démonstratrice de collection. Par exemple, vous avez des mâles Vuitton et vous allez retrouver ces mâles Vuitton à l'intérieur de l'univers digital pour effectivement échanger avec nos clients et leur fournir une expérience unique, notamment quand ils sont à distance.
Alors dernière innovation, cette fois chez Guerlain, on peut acheter un NFT qui va permettre d'acheter une portion de terrain. Expliquez-nous.
Exactement. Donc la maison Guerlain, qui est très sensible à la protection de l'environnement, a lancé un projet qui est une œuvre d'art digital. Vous voyez, c'est une abeille qui reproduit aussi des motifs floraux qu'on va trouver dans la réserve naturelle de la vallée de la Minière. Et effectivement, avec ce concept, la maison Guerlain a lancé 1828 NFT qui vont permettre à 1828 clients d'acheter une partie de cette parcelle qu'on a créée en partenariat avec Yann Arthus Bertrand, et dans la perspective de la protéger et de réensauvager cette parcelle.
Chaque année, le groupe LVMH organise un prix de l'innovation. Sur les 21 startups qui ont été sélectionnées pour intégrer le lab LVMH à Vivatech, c'est la startup Toshi qui a remporté ce prix. Elle est spécialisée dans le défi du dernier kilomètre en proposant un délai de livraison de 30 minutes aux clients.
Voilà, le directeur des innovations, directeur IT et technologie, précisément du groupe LVMH. À suivre, juste après la pause, on va parler de la situation à Taïwan. La Chine a annoncé qu'elle allait poursuivre ses exercices militaires près de l'île de Taïwan afin de protester toujours contre la visite il y a quelques jours de Nancy Pelosi sur l'île de Taïwan. Y a-t-il un risque d'escalade ? On va en parler avec le directeur du bureau de représentation de Taipei en France. À tout de suite.
BFM Business, Good Morning Business, l'interview.
La Chine va poursuivre ses exercices militaires près de Taïwan afin de protester contre la visite il y a quelques jours de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants américaine, sur l'île de Taïwan. On va parler du risque d'escalade avec Chi Chung-Wu. Vous êtes directeur du bureau de représentation de Taïwan en France. On parlera de votre statut dans un instant. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Une question toute simple. Est-ce que vous avez, vous redoutez ce matin un risque d'escalade ?
Nous inquiétons beaucoup de ce que la Chine est en train de faire sur place.
Par exemple, ils ont élargi leur manœuvre militaire jusqu'aux mers de la Chine du Sud, qui est normalement c'est un des eaux internationales pour libre navigation. Oui. Donc ça touche déjà à tous les autres pays. Même la Corée du Sud, qui normalement se réserve d'avoir des mots durs envers la Chine, le ministre des Affaires étrangères sud-coréenne a déjà dit qu'ils sont très inquiets de la situation. Alors, les Japonais aussi. Ils ont protesté qu'il y a des missiles chinois qui sont tombés dans leurs eaux. C'est une façon que la Chine veut vraiment montrer ses muscles et voir et faire des exercices pour élargir leur influence sur place. Mais je trouve que c'est aussi une arme à double tranchante. D'un côté, bien sûr, les Chinois montrent leurs muscles, font des investissements et veulent dissuader la communauté internationale de ne plus avoir des contacts à haut niveau avec Taïwan. Mais de l'autre côté, moi je trouve, il y a quand même, pour nous, le côté positif. Les Américains ont quand même réussi à dire à la Chine que la ligne rouge, ce n'est pas eux qui les fixent. Deuxième chose, moi je pense, ce sera très grave pour la Chine dans les jours à venir. Ce n'est pas seulement un problème pour Taïwan, mais pour la Chine. C'est-à-dire l'image de la Chine a encore été dégradée. Et ça, ça va vraiment influencer les futurs investissements en Chine. Ici, on est dans BFM Business. Donc les gens, quand ils vont regarder ce que la Chine est en train de faire et que la Chine elle-même est devenue une source d'instabilité, il y aura beaucoup de nouveaux pensées qui vont se produire.
Nancy Pelosi a toujours soutenu Taïwan. Est-ce que, pour autant, le timing de cette visite était le meilleur timing possible, alors que la situation géopolitique internationale est déjà extrêmement tendue ?
Alors, le timing, c'est à discuter, bien sûr. Mais il y a aussi eu une... C'est-à-dire, le problème, c'est dès le début. Enfin, le problème, c'est-à-dire, Nancy Pelosi avait dit qu'il allait visiter Taïwan. Donc ça, c'est déjà dit. Si elle ne vient pas, elle aura laissé la Chine... pour dire, c'est nous qui fixons les règles. En plus, je pense, il y a quelques jours, il y a eu une déclaration des ministres des Affaires étrangères du G7 en disant que cette fois-ci, les actions chinoises est quand même injustifiée, agressive. Et puis, il a dit qu'il n'y a pas de problème pour qu'un représentant du peuple se déplace et rencontre les gens de Taïwan. Donc, tout ça, je pense, même il y a un problème de timing, peut-être, à discuter, mais de toute façon, la visite d'un représentant de peuple, normalement, ne doit pas être interdite par la Chine. En plus, ce n'est pas la première fois. En 1997, il y a eu aussi la visite de l'ancien président de la Chambre des représentants américains, oui. Gingrich, qui était venu. Et à l'époque, la Chine n'a pas réagi de cette façon. Donc je pense, vous voyez, si la Chine, avec maintenant sa puissance militaire, est en train de fixer des nouveaux règles, et c'est ça qui va poser le problème pour nous.
Est-ce que vous auriez souhaité davantage de soutien de la part des pays occidentaux, et notamment de la France, qu'on n'a pas beaucoup entendu ?
Je suis déjà très content de la France. Récemment, je suis invité à plusieurs reprises dans des chaînes de télévision françaises.
Mais là, je ne parle pas des médias, je parle des autorités politiques.
Le ministre des Affaires étrangères français s'est joint aux déclarations du G7. Alors, pour moi, plus on en parle, c'est vraiment la responsabilité de tout le monde. C'est-à-dire, plus il faut envoyer des messages à la Chine que la Chine doit être responsable en étant la deuxième puissance économique du monde. La Chine doit être responsable. Donc, plus on parle de Taïwan, moi je pense, plus vous nous aidez à maintenir la stabilité de la région.
La question de fond, c'est la reconnaissance de Taïwan comme un État souverain. Je l'ai dit, vous êtes directeur du bureau de représentation de Taïwan.
Je suis représentant
de Taïwan en France.
Ça, c'est le titre officiel.
Vous n'avez pas le titre officiel d'ambassadeur.
Oui, ça c'est vrai. Mais Taïwan, c'est un État souverain non reconnu par la France. Ça n'empêche pas quand même une certaine courtoisie de la part de la France. Donc, dans certains médias, je suis appelé ambassadeur de Taïwan en France. Alors, je respecte votre choix, mais encore une fois, ça concerne aussi nos responsabilités sur les médias. Les médias libres, la Chine ne vous aime pas, vous le savez. Et Taïwan, c'est quand même un modèle de démocratie. Donc, moi, je pense souvent une certaine courtoisie, c'est aussi la preuve que nous tenons compte de nos convictions qui est la démocratie, la liberté, ou même je dirais les devises de la France, fraternité, égalité. Voilà, donc tout ça c'est vraiment quelque chose que je pense les pays démocratiques doivent se montrer solidaires envers Taïwan, et je pense que ça aura un effet positif considérable.
Est-ce que la Chine a les moyens, notamment maritimes, de lancer une offensive militaire contre Taïwan ? Les experts militaires nous disent que
La Chine n'a pas les ressources militaires suffisantes. Est-ce que vous êtes d'accord ?
Alors, je pense que la Chine en a de plus en plus. Parce que là, je ne suis pas un expert militaire. Je ne peux pas dire si vraiment la Chine en a suffisant. Mais vous savez, un amiral français avait témoigné devant le Sénat en disant que les Chinois construisent plus de bateaux de guerre tous les 5 ans que toute la marine française. Maintenant, le nombre des bâtiments de guerre chinois ont dû dépasser les Américains.
Il faut être extrêmement prudent.
Oui, voilà. Mais il y a aussi un fait géographique, c'est que le détroit de Taïwan qui sépare la Chine et Taïwan, c'est 180 km. Et donc, c'est 5 fois plus large que la Manche. Et à Taïwan, il y a aussi, dans cette région, comme vous le savez très bien, il y a souvent des typhons. Donc, il y a très peu de temps que la Chine peut vraiment faire une attaque maritime vers Taïwan. Donc, moi, je pense qu'il y a des conditions géographiques qui limite cette volonté chinoise, mais il faut être extrêmement prudente parce que comme la décision appartient à une seule personne qui est le président chinois, M. Xi, qui va bientôt devenir président à vie en Chine, donc les raisons qui déterminent la décision d'un dictateur, souvent c'est incompréhensible à l'extérieur.
Vous le dites, il va bientôt devenir président à vie. Est-ce que le calendrier politique en Chine, à votre avis, pousse à cette intervention militaire, cette démonstration de force depuis quelques jours ?
Alors, je crois certainement, parce que M. Xi a quand même besoin de ce soutien du congrès du Parti communiste, le 20e congrès du Parti communiste au mois de novembre. Donc, bien sûr, c'est pour ça qu'on discute, est-ce que c'est un bon moment pour Nancy Pelosi de venir ? Mais c'est aussi, de l'autre côté de la Chine, s'il veut vraiment mettre vraiment en très haut la barre très haut, cette action. Donc là, M. Xi, bien sûr, naturellement, a besoin de montrer à ses compatriotes qu'il est capable de gérer la crise, et puis que la Chine est devenue la première puissance du monde, que la Chine veut imposer sa volonté aux Américains. Vous voyez, c'est tout ça qui met en conflit et qui a bien sûr des raisons politiques intérieures qui est à l'origine de ce conflit.
Ces exercices militaires ont bloqué le trafic commercial depuis quelques jours dans le détroit de Taïwan.
Oui.
Est-ce que la Chine peut se permettre, dans son propre intérêt économique, de bloquer le trafic sur une longue période ?
Alors ça, ce sont des choses, encore une fois, qu'il va falloir discuter. La Chine, certainement, est beaucoup plus forte que la Russie. La Chine, c'est la deuxième puissance économique. Mais dans la région, il n'y a pas que la Chine. Il y a aussi le Japon, qui est la troisième puissance économique mondiale. Mais si nous revenons un peu sur les relations économiques entre la France et la Chine, vous avez 27 milliards d'investissements chaque année en Chine. Vous avez 2 milliards à Taïwan. Alors, s'il y a un conflit ouvert qui se fait. Regardez vos relations avec la Russie et l'Ukraine pendant cette guerre. La Russie envahit l'Ukraine. Donc, c'est pas simplement votre investissement en Ukraine qui a problème. Vos investissements en Russie aussi ont été atteints. Donc la même chose, si un conflit qui se passe entre la Chine et Taïwan, vos investissements en Chine, qui est énorme, sera aussi atteint. Donc tout ça, c'est pas seulement une question de la Chine, mais aussi une question mondiale. Et je crois que c'est une question extrêmement compliquée que tout le monde doit tenir en compte et doit mettre ses attentions là-dessus.
Personne n'a intérêt à ce que le conflit
normalement,
et la
si
situation
on est raisonnable.
Dégénère. Néanmoins, est-ce que la situation actuelle ne va pas renforcer davantage les liens entre la Chine et la Russie ?
Je pense, oui, vous avez raison. C'est aussi pour la raison pour laquelle les Américains ne veulent pas, enfin, je veux dire, sur la visite de Nancy Pelosi, ce n'est pas un consensus à l'intérieur des États-Unis.
On avait bien compris.
Oui, oui. Donc, il ne veut pas, comme dans son édit, on ne veut pas ouvrir deux fronts de conflit en même temps. Et ça, c'est très difficile pour une superpuissance. Donc, moi, je pense que c'est vraiment des considérations qui sont correctes.
L'une des forces économiques de Taïwan, c'est la production de semi-conducteurs. Est-ce que, d'abord, la Chine peut réellement s'en passé et ensuite, est-ce que la situation actuelle peut déstabiliser encore davantage le marché mondial des semi-conducteurs ?
Alors, le commissaire européen Thierry Breton avait dit si jamais il y a un conflit qui se passe et que Taïwan n'arrive plus à exporter les semi-conducteurs, les usines du monde, y compris la Chine, vont cesser de fonctionner dans les semaines qui viennent. Le patron de TSMC avait dit aussi la chaîne de production pour TSMC, c'est vraiment une chose extrêmement compliquée. N'importe quelle sorte de conflit, si on arrête un élément qui produit ces produits le plus sophistiqué du monde, eh ben, TSMC ne pourra plus fonctionner. Et puis, c'est impossible qu'une armée prend contrôle par la force les unes du TSMC. Donc, encore une fois, si jamais il y a un conflit qui est ouvert ou vraiment il y a un blocus sur place, je crois l'ordre mondial, qui est déjà pas très très stable, sera impacté, sera vraiment un gros problème.
TSMC, leader mondial des semi-conducteurs, qui produit 24% des puces utilisées dans le monde, presque un quart, c'est énorme. C'est le graphique qu'on voyait à l'écran.
The Economist avait dit l'année dernière, c'est 70% des semi-conducteurs les plus sophistiqués.
Je parlais d'une force économique pour Taïwan, c'est aussi une arme politique, cette domination dans le secteur des semi-conducteurs.
Oui, bien sûr. Les semi-conducteurs, comme ce sont les éléments pour tous les produits quotidiens qu'on utilise actuellement, ce sont les ordinateurs, ce sont les portables, ce sont l'industrie automobile. Comme ils sont concentrés à Taïwan, toutes sortes de turbulences peuvent vraiment empêcher ces exportations dans le monde. Donc ça devient naturellement une arme politique. Vous avez tout à fait raison.
Merci beaucoup d'être venu en plateau ce matin nous parler de cette situation effectivement très compliquée. Donc 70% oui. Effectivement des semi-conducteurs sophistiqués, oui. 24% de l'ensemble
ça, c'est le marché, des semi-conducteurs. Je pense, voilà. Dit. Oui.
Merci beaucoup Chin Chung Wu. Vous êtes donc en charge de la représentation de Taïwan en France et donc vous n'avez pas officiellement le statut d'ambassadeur, mais vous représentez effectivement l'île de Taïwan et sa souveraineté. Merci beaucoup d'être venu en plateau ce matin. On marque une pause à suivre le journal de l'économie, à suivre dans un instant. Il est bientôt 8h30 sur BFM Business et RMC Découverte. On va faire un nouveau point complet sur l'actualité économique avec Claire Sergent. Claire, on reparle du gaz ce matin. Les Européens sont appelés à se serrer la ceinture, pas l'hiver prochain, dès à présent.
Ah oui, la réduction de 15% de la consommation décidée au sein de l'Union européenne entre en effet en vigueur demain. Le décret est publié au journal officiel aujourd'hui. L'accord décidé en fin de mois dernier prévoit que chaque pays fasse tout son possible pour y parvenir. Pendant ce temps-là, le remplissage des réserves de gaz pour l'hiver prochain à partir de GNL, gaz naturel liquéfié, s'intensifie. Mais nous ne sommes pas les seuls à saisir cette alternative. Les pays asiatiques en sont les principaux importateurs. Valentin Grille.
La bataille pour les méthaniers et leur GNL est plus rude que jamais. Les Européens se montrent prêts à payer plus cher pour remplir leurs réserves. Le mégawattheure s'achète 25% plus cher en Europe, au-delà des $200. Résultat, alors que la Chine, le Japon et la Corée sont les trois principaux consommateurs, les producteurs préfèrent désormais le vieux continent. Les États-Unis, qui lui consacrent habituellement un tiers de leurs ventes, lui ont envoyé 74% de leur production de GNL sur le premier trimestre de 2022. Certains vendeurs vont jusqu'à casser les contrats à terme asiatiques pour vendre plus cher en Europe sur le marché spot. Malgré les pénalités, ils restent gagnants. Les prix en Asie pourraient donc encore flamber cet hiver quand les stocks devront être reconstitués. Et les économies les plus fragiles pourraient même affronter des pénuries. Seule éclaircie, la Chine, dont la demande en GNL demeure faible à cause du Covid et qui se permet même de revendre son surplus à ses voisins. Mais la reprise attendue pourrait accentuer une concurrence déjà féroce pour le gaz.
Les États-Unis lancent leur grand plan en faveur du climat et de la santé.
430 milliards de dollars d'investissement, c'est l'enveloppe globale de ce plan historique voté hier au Sénat américain. Il est destiné notamment à faire baisser les émissions de gaz à effet de serre dans le pays. Le résultat de nombreux mois de négociations et c'est une victoire politique pour Joe Biden. À New York, Lubna Anakis, la correspondante de BFM Business.
Oui, absolument, car il faut savoir que ce plan est au cœur de l'agenda politique de Joe Biden. Il avait même fait campagne sur certaines de ses promesses et ce plan était effectivement bloqué depuis 18 mois, principalement en raison de divisions au sein même du Parti démocrate. Il aura fallu de longues négociations pour arriver à cette version finale, qui d'ailleurs, selon certains, ne représente qu'une infime partie du plan original. Cela reste tout de même un plan d'investissement massif pour le climat, pour accompagner la transition énergétique, pour la santé, pour faire baisser notamment les prix de certains certains médicaments comme l'insuline. Et aussi, ce plan prévoit une nouvelle mesure, un nouvel impôt de 15% pour les entreprises dont les bénéfices dépassent le 1 milliard de dollars. Selon les démocrates, ça permettra notamment de faire baisser le déficit. À 90 jours des élections de mi-mandat, c'est forcément une victoire pour Joe Biden et pour les démocrates qui vont pouvoir faire campagne sur ce plan, qui désormais doit encore être validé par la Chambre des représentants avant d'être signé par Joe Biden.
En France, des hausses de crédits inédites pour l'éducation, le travail, les solidarités, la justice n'est pas en reste. C'est Gabriel Attal, le ministre délégué aux comptes publics, qui l'annonce dans Les Échos ce matin. Le gouvernement veut augmenter de 12,5 milliards d'euros le budget de l'éducation, du travail et des solidarités l'année prochaine. Rien que pour l'emploi, ce sera 6,7 milliards de plus, mais le gouvernement s'engage par ailleurs à réduire les dépenses de 0,3% en volume global l'année prochaine.
La retraite de reçu des entreprises françaises, elles ont finalement réussi à limiter la casse.
Ah oui, le montant de la facture est cependant élevé, hein, plus de 15 milliards d'euros de pertes au total. Mais pour le reste, les conséquences sont au final limitées. Caroline Morisseau.
De lourdes factures, mais pas d'accidents majeurs. 16 des 40 groupes du CAC ont vu leurs résultats amputés à cause de leur retrait de la Russie, pour un montant total de plus de 15 milliards d'euros. Parmi les plus exposés, Total Energy a payé à lui seul près de la moitié de la facture, plus de 7 milliards d'euros de pertes et de dépréciation. Mais cela n'a pas empêché le groupe de publier des bénéfices records grâce à la flambée des prix de l'énergie. Même chose pour Engie, qui malgré le coût de la Russie, 1 milliard d'euros, a réalisé des profits records. Deux groupes, en revanche, ont basculé dans le rouge. Renault, qui a dû passer 2,3 milliards d'euros de pertes suite à la cession d'Avtovaz. Mais là encore, pas de quoi entamer l'optimisme du groupe, qui a même revu ses perspectives financières à la hausse pour 2022. Enfin, la Société Générale a dû débourser 3,3 milliards d'euros pour se débarrasser de sa filiale Rosebank. Mais ses performances commerciales ont permis d'amortir le choc. L'activité s'est tellement bien portée par ailleurs que la banque s'en sort avec une perte de seulement 1,5 milliard. Pour tous, le choc semble donc déjà absorbé.
Veolia annonce un accord avec le groupe australien Macquarie pour céder les activités déchets de Suez au Royaume-Uni, montant de la vente 2,4 milliards d'euros, une opération qui vise à répondre aux préoccupations de l'autorité de la concurrence britannique, dont Veolia doit encore obtenir l'approbation. La directrice générale de Veolia se dit confiante et voit dans cette session l'occasion de se renforcer dans l'énergie, les eaux usées et l'économie circulaire. SoftBank, le géant japonais des investissements dans les nouvelles technologies, accuse à nouveau de lourdes pertes, 23 milliards d'euros en pertes nettes au premier trimestre. Le groupe continue de subir le recul mondial des valeurs de la tech.
Et puis Amazon qui s'offre les aspirateurs robots Roomba.
Et le géant américain du commerce en ligne rachète le fabricant iRobot pour 1,7 milliard de dollars. C'est la quatrième plus grosse acquisition d'Amazon après Whole Foods, les studios de cinéma MGM et un réseau de santé américain, Hélène Cornet.
On en est à la 10e génération de l'aspirateur Roomba, toujours plus efficace, toujours plus autonome, toujours plus connecté. Son créateur, le fabricant iRobot, en a déjà vendu plus de 40 millions en une vingtaine d'années. Une innovation qu'Amazon connaît bien, c'est le produit vedette des Prime Days depuis 8 ans. Le géant du commerce en ligne va pouvoir ainsi élargir sa gamme de produits et services connectés pour la maison. Les enceintes Echo, les sonnettes intelligentes Ring, les caméras de surveillance Blink par exemple. Plus de 100 millions d'appareils dans le monde seraient compatibles avec le système de commande vocale Alexa. C'est tout un écosystème qu'Amazon est en train de créer pour envahir toutes les pièces de la maison et récolter par la même occasion autant de données sur ses clients. La domotique est le segment le plus porteur des objets connectés, un marché estimé à 69 milliards de dollars en 2020 et largement occupé par les trois géants américains Apple, Google et Amazon.
Merci Claire, on se retrouve tout à l'heure à 9h pour le prochain journal, les marchés financiers. Avec Romain Daubry, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour Romain.
Bonjour Stéphane.
Tendance toujours positive, cela dit on va manquer un petit peu de munitions. Hein. On est au creux de l'été, peu de publications sur l'agenda, ça risque d'être un peu calme.
Oui, effectivement, on peut se poser la question du soutien après un très beau rallye sur la plupart des grands indices, plus de 13% pour l'indice parisien, et puis effectivement des volumes qui commencent à peiner un peu. On n'a pas vu une journée supérieure à 3 milliards d'euros toute la semaine dernière, et ça devrait continuer. Du côté des marchés dérivés, c'est la même chose. Mais en revanche, on n'a pas d'éléments qui laissent à penser à un retournement de tendance dans l'immédiat. Il n'y a pas de pression baissière, mais peut-être un manque de drivers pour poursuivre, alors qu'on aborde aussi sur la plupart des grands indices des niveaux de résistance majeurs. Hein, sur l'indice S&P 500, c'est la zone 4100-4200. Sur le Nasdaq 100, c'est une zone située aux alentours de 13500 points. Alors, on va quand même avoir un très gros chiffre macroéconomique cette semaine. C'est l'indice des prix à la consommation. Donc les chiffres de l'inflation qui sont, on le sait, le nerf de la guerre en ce moment, d'autant plus suivi qu'on a eu d'excellents chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis et que ça avait fait un petit peu plier les marchés dans ce contexte un peu paradoxal où les bonnes nouvelles ou les trop bonnes nouvelles font un peu plier les marchés. Côté microéconomique, la saison des résultats arrive à sa fin. Il y aura quelques publications intermédiaires en Europe. On surveillera quand même les résultats de Walt Disney aux États-Unis cette semaine. Donc pour l'instant, on est effectivement en hausse sur l'indice parisien, aux alentours de 6500 points, en hausse de 0,42%. Le gros niveau de résistance, et on a buté dessus la semaine dernière, c'est 6545 points. L'alerte et le niveau à préserver, mais sans danger majeur, c'est 6430 points. Sa rupture entraînerait probablement un retour sur l'ancienne zone de soutien qui est 6315 points. La vraie alerte, le vrai danger, ce serait d'aller rompre 6250. Vous voyez qu'on a de la marge. Nous, on penche plutôt pour une latéralisation, une évolution latérale, une digestion de cette belle progression entre 6315 et 6545 points. Ceci dit, si l'indice veut continuer à progresser, on a des cibles intéressantes à 6600 et pourquoi pas, en cas d'extension, jusqu'à 6680 points.
Merci beaucoup, Romain Daubry, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. L'ouverture, ce sera à suivre en direct tout à l'heure à la fin du journal de 9h avec Antoine Larigaudry en direct du siège d'Euronext. Une question à présent, les salariés d'une entreprise peuvent-ils effectuer des heures de bénévolat sur leur temps de travail? La question revient souvent, c'est une pratique très présente dans les pays anglo-saxons. Écoutez la réponse de Thomas Schnell.
Good Morning Business, BFM Business avec vous.
On a une question d'un employeur qui nous écoute sur BFM Business. Il souhaite permettre à ses salariés de réaliser quelques jours de bénévolat par an pour le compte d'une association de leur choix sur leur temps de travail. Est-ce qu'ils doivent faire signer un avenant au contrat de travail? Eh bien oui, cela s'appelle d'ailleurs le mécénat de compétences. Alors le plus simple, c'est de pratiquer la mise à disposition du collaborateur. Il faut pour cela bien sûr un avenant au contrat de travail. Il faut aussi une convention qui va être signée entre l'entreprise et l'association utilisatrice. Le CSE peut aussi être consulté en amont si jamais il y en a un au sein l'entreprise.
Thomas Schnell, BFM Business, avec vous. Il est bientôt 8h40, votre rendez-vous IMO avec Marie Cœur de Roy.
Acheter un logement jusqu'à 40% moins cher que les prix du marché, c'est possible grâce au bail réel solidaire, le BRS. L'idée, c'est d'acheter un logement, mais pas le terrain sur lequel il sera construit. En clair, on devient propriétaire des murs, mais pas du foncier. Et c'est pour ça que le prix de vente sera jusqu'à 40% moins cher. Notez que l'acheteur va quand même devoir s'acquitter d'un loyer pour l'occupation du sol. Sur le papier, l'idée est séduisante. Il reste quand même pas mal de freins. D'abord, ces opérations ne sont pas accessibles à tout le monde, elles sont réservées aux ménages les plus modestes. Mais surtout, il est très difficile aujourd'hui d'avoir une vision d'ensemble de ce marché. Très clairement, il faut vraiment aller sur les sites des OFS, les organismes fonciers solidaires. Ce sont eux qui gèrent ces opérations. Il en existe une grosse centaine et il n'y a aujourd'hui aucune plateforme qui centralise ces opérations en BRS. Le mieux reste donc d'aller se renseigner sur les moteurs de recherche ou via les sites web des promoteurs immobiliers eux-mêmes. Le groupe Gambetta, par exemple, proposait récemment à Cannes des appartements à acheter en BRS à 3200 euros du mètre carré contre 6000 euros du mètre carré sur le marché classique. C'est évidemment très alléchant. Attention quand même, le BRS, c'est un accès à la propriété un tout petit peu particulier. D'abord, vous êtes propriétaire pour une durée longue mais limitée, jusqu'à 99 ans. Mais surtout, c'est un outil anti-spéculation. Concrètement, le jour où le propriétaire ou ses héritiers souhaitent revendre le bien, les prix sont plafonnés en fonction de la zone géographique. Il ne faut pas vraiment compter donc sur une grosse plus-value en sortie.
Restez avec nous juste après la pause. On va vous parler d'un ennemi de saison, le moustique. Comment lutter contre les moustiques? Comment s'en protéger? Il existe des solutions technologiques. On en parle juste après la pause avec Anthony Morel et Frédéric Simotel.